Nous recevons Hervé Le Treut. Hervé Le Treut est climatologue. Il est né en 1956 à Toulon. Il est directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique qui dépend du CNRS, de l'École normale supérieure, de l'École polytechnique et de l'Université de Paris 6. Il est également professeur chargé de cours à l'École polytechnique et responsable d'une équipe de modélisation du climat. Il est ancien élève de l'ENS, il a fait une thèse d'état au laboratoire de météorologie dynamique, il est spécialiste de la modélisation du climat, du rôle des perturbations radiatives du climat, du rôle des nuages, du rôle des interactions entre océans et atmosphère. Parmi ses publications, outre de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées, il a publié en 1994 « Climate Sensitivity, Physical Process and Their Validation » chez Springer, qui est consécutif à l'organisation d'un atelier OTAN à Paris. Et en 1996-97, il est co-auteur de « Océan et atmosphère » paru chez Hachette. Hervé Le Treut, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat d'une vingtaine de minutes pourra suivre. Je vous remercie.
Je vous remercie aussi. Donc je vais parler de l'action de l'homme sur le climat, qui est un sujet qui est au centre de beaucoup de débats, beaucoup d'attention publique. Et ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est de vous présenter surtout les bases scientifiques qui ont permis à la communauté scientifique d'alerter le monde public sur ce problème. Donc je vais surtout parler de comment on peut prévoir le changement climatique, sur quelle base scientifique, et ce sera une occasion de rentrer un petit peu dans la complexité du système climatique et de ses différentes composantes, l'atmosphère, l'océan, à la suite de ce qu'a fait Joël Picot et de ce que fera aussi, en précédence, ce que fera aussi Robert Sadourny. Alors je vais aller du connu au moins connu, en essayant de décliner les choses qui sont réelles, mesurées, et puis les choses que l'on prédit sur une base qui est souvent une base scientifique de calcul ou d'équation. Alors, dans ce problème du changement climatique, on a un point de départ qui est un point de départ évident, très fort, c'est la modification de la composition chimique de l'atmosphère. C'est quelque chose qui est mesuré. Et à partir de cette mesure, qui montre qu'effectivement, et je vais y venir tout de suite avec des images, on a une action de l'homme sur le climat évidente au niveau de cette chimie atmosphérique, bien, on va essayer de dévider l'écheveau des conséquences en essayant de les argumenter physiquement. Et c'est ce que j'essaierai de faire avec vous ce matin. Donc le point de départ, comme je l'ai dit, c'est l'analyse de cette composition chimique de l'atmosphère. Et la manière dont on l'observe, je vais peut-être commencer par la courbe du bas qui montre l'échelle de temps, c'est par des combinaisons de mesures réelles et de mesures qui sont issues de carottes glaciaires qui permettent de remonter très loin dans le temps. Donc vous avez ici une courbe qui commence à 200 000 ans avant notre époque et puis qui s'en va vers la gauche, parce que c'est l'habitude des paléoclimatologues de faire s'écouler le temps de la droite vers la gauche jusqu'à l'époque actuelle. Et vous avez en vert l'enregistrement du méthane tout au long de cette période extrêmement longue. Vous voyez qu'il varie entre 400 et 700 parties par billion, en français on dirait par milliard, donc des pour milliardième, ce qui paraît peu, mais on reviendra sur l'impact réel de ces petites variations. Et vous avez la valeur actuelle, et la valeur actuelle, par rapport à l'écran, elle sort de l'échelle, passe de 700 parties par milliard à 1700. Donc en quelques années, on va prendre une échelle plus fine sur la période récente juste après, on a eu une modification sans précédent tout au long en fait, de l'ère quaternaire de la composition chimique de l'atmosphère. Un autre gaz que je montre maintenant après, puisque permet d'avoir déjà introduit l'échelle de temps et qui est plus important au niveau de ses conséquences, on le verra, c'est le CO2. Vous avez ici la variation du CO2 pour ces mêmes 200 000 années. Une variation qui va de 180 à 280 parties par million cette fois-ci, donc un peu plus de CO2 dans l'atmosphère, il joue un rôle aussi un petit peu plus important. Et vous avez l'évolution jusqu'à un niveau actuel qui a maintenant dépassé ces valeurs de 360 parties par million. Donc là aussi, une augmentation qui paraît extrêmement brutale à l'échelle de temps du quaternaire. Alors à l'échelle de temps de la planète tout entière, à l'échelle de temps des milliards d'années, en fait, ces évolutions sont plus faibles, paraîtraient plus faibles. La planète, originellement, avait une atmosphère de CO2, donc elle a connu des niveaux de CO2, des niveaux de dioxyde de carbone très importants, par exemple à l'ère tertiaire. Mais à l'échelle des quelques dernières centaines de milliers d'années, ça représente une perturbation extraordinairement rapide. Et en fait, à l'échelle de l'histoire de la planète, on ne connaît pas d'épisode de variation aussi rapide de ces gaz. Alors on peut essayer de regarder plus précisément la période actuelle. Vous avez ici un diagramme qui représente d'abord le dernier millénaire, l'évolution du CO2 donc depuis l'an 1000. Il s'agit toujours d'enregistrements qui sont faits à partir de mesures des bulles d'air dans la glace des glaciers, cette fois-ci souvent alpins ou européens. Et puis à partir des années 50, en fait, on a des mesures réelles dans l'atmosphère. Et ça correspond au diagramme qui est agrandi ici. On a montré ce qui se passe entre 1850 et 2000. Et vous voyez qu'on a, sur le diagramme du bas, la mise en évidence d'une rupture très brutale des tendances d'évolution du CO2 à partir des années 1800, donc à partir du début de la révolution industrielle. Et quand on affine un petit peu, on voit qu'en fait, l'épisode critique se situe même plus près de nous, à partir des années 50. C'est là que la croissance majeure se fait. Et la courbe en pointillé, qui est au-dessus, représente les émissions de CO2 que l'on peut évaluer à partir de la combustion du charbon et du pétrole. Et vous voyez le parallélisme très frappant de ces deux courbes, la composition chimique de l'atmosphère en CO2 et les émissions de carbone, telles qu'on peut les reconstituer à partir des volumes en set de charbon ou de pétrole qui ont été vendus. Même chose quand on s'intéresse au méthane, je ne montrerai que cette courbe ici. Vous avez l'évolution du méthane tout au long du dernier millénaire, qui vient de même type d'analyse, avec ce même saut brutal à partir des années 1800. En fait, les gaz qui augmentent dans l'atmosphère, ce ne sont pas seulement le CO2, ni le méthane, mais ce sont des gaz plus nombreux. On a aussi des oxydes d'azote, et on a les CFC, qui sont connus aussi pour agir sur l'ozone. Les CFC sont les seuls gaz, en fait, dont la composition a tendance à se stabiliser. C'est suite au protocole de Montréal. Vous avez ici l'évolution du CFC-11 dans l'atmosphère. J'ai coupé un petit peu trop haut. Et vous voyez qu'à partir de l'adoption du protocole de Montréal, qui limite la fabrication de ces CFC, on a une certaine stabilisation dans l'atmosphère. Mais tous les autres gaz à effet de serre continuent d'augmenter dans l'atmosphère. Ce sont des gaz qui ont une durée de vie longue, qui s'accumulent et qui augmentent de manière quasi exponentielle dans l'atmosphère. Alors il y a plusieurs remarques qu'on doit faire à ce stade. Et la première, ce serait de laisser imaginer que l'atmosphère constitue un réservoir inerte dans lequel tout ce qu'on injecte reste accumulé. L'atmosphère est un système extraordinairement compliqué qui est en liaison constante avec le sol continental, avec la végétation continentale, avec l'océan, et qui échange en permanence du carbone entre ces milieux. Alors un diagramme ici un petit peu compliqué, j'en aurai un ou deux comme ça, pour essayer de représenter ce qui se passe. C'est dans l'autre sens. Vous avez ici une vision simplifiée du cycle du carbone. Vous avez des grandes boîtes qui constituent des stocks, donc le stock atmosphérique de 500 milliards de 700 milliards de tonnes, et puis des stocks de carbone aussi dans la végétation ou les sols, des stocks de carbone dans l'océan, l'océan superficiel, sous forme souvent de carbone dissous dans l'océan, mais aussi plus profondément dans l'océan, et avec un relais par la biologie océanique, et jusqu'à l'enfouissement de sédiments au fond des océans. Et vous avez entre ces boîtes des flux naturels, qui sont exprimés ici par les flèches, avec des valeurs qui sont en milliards de tonnes par an. Donc vous avez un flux naturel d'échange entre l'atmosphère et la végétation qui est de 60 milliards de tonnes par an, à peu près. Un flux naturel d'échange entre l'atmosphère et l'océan, qui est de 90 milliards de tonnes par an. La perturbation naturelle, la perturbation anthropique, pardon, ce qu'apporte l'homme, ce sont 5 milliards de tonnes dues à la combustion du charbon et du pétrole, et c'est très difficile à chiffrer, mais quelque chose qui est aux alentours d'un milliard de tonnes lié à la déforestation. Le problème de la déforestation, c'est quand on coupe des arbres, ils repoussent de la végétation, donc il y a un changement d'usage des sols qui est difficile à quantifier, mais c'est de l'ordre du milliard de tonnes. Ça veut dire que la somme de ces perturbations, elle peut paraître au premier abord petite par rapport à ce qui est recyclé naturellement. Et certains pétroliers ne se sont pas gênés pour le faire savoir. En fait, ce qui est important ici, on a vu le parallélisme étroit entre la courbe d'émission des gaz à effet de serre et la courbe de leur évolution dans l'atmosphère. De manière générale, la moitié de ce qui est émis reste dans l'atmosphère de manière très constante. Ce qui est important, et on y reviendra aussi pour la partie énergétique, c'est que l'on est en train de déséquilibrer un système qui s'était équilibré pendant de longues années. Je vais le remontrer ensuite, mais pour l'essentiel, le système climatique a peu évolué au cours des 8 ou derniers 1000 années. Et ce système climatique relativement stable se voit perturbé de manière brutale par l'injonction de gaz à effet de serre. Donc c'est cette perturbation qui est importante. Et le système atmosphérique n'est pas un système inerte. Dans l'état actuel, il conserve la moitié de ce qu'on lui injecte, de ce qu'on lui a en termes de carbone. C'est un chiffre qui n'est pas, j'y reviendrai aussi, gravé dans le bronze. On peut imaginer que dans le futur, cette part du carbone qui reste dans l'atmosphère évolue et se devienne plus ou moins importante. Alors, j'ai parlé donc de cette évolution de la composition chimique de l'atmosphère et je vais faire maintenant le premier pas en avant qui est de savoir comment est-ce que ces gaz affectent le climat. Et je vais introduire un premier mécanisme physique, ce qui est l'impact de ces gaz sur le bilan radiatif de la planète. Donc le climat, il est régulé essentiellement la température de la planète par des échanges énergétiques. Et je dois aussi en parler, ce sera mon deuxième diagramme un petit peu délicat, que je présente maintenant parce qu'il est d'une certaine manière très similaire à celui que je viens de montrer pour le carbone dans l'esprit. Alors, j'ai peur que ce ne soit pas si net. Vous avez ici, en fait, une vision simplifiée de la manière dont fonctionne le système climatique, avec en jaune une entrée d'énergie qui est liée au soleil, et puis en rouge, une sortie d'énergie qui correspond à ce que la Terre émet. Le soleil émet dans une gamme de rayonnement qui va de l'infrarouge proche à l'ultraviolet. La Terre, qui a une température très différente, émet dans une gamme de rayonnement plus longue en termes de longueur d'onde et correspond à l'infrarouge. Ce que la Terre gagne du Soleil, elle doit le réémettre. Mais ce processus d'équilibre entre ce que la Terre gagne au niveau du rayonnement solaire et qu'elle émet ensuite vers l'espace est perturbé par un très grand nombre de mécanismes dont les principaux sont figurés de manière schématique sur ce diagramme. Vous voyez qu'en fait, une moitié seulement, alors si on peut lire les chiffres, on a ici 342 watts par mètre carré qui arrivent au sommet de l'atmosphère, et je vous demande simplement de conserver en tête cet ordre de grandeur, c'est de l'ordre de quelques centaines de watts par mètre carré pour ce qui est du chauffage de la planète par le Soleil. La moitié arrive au sol, et ce qui se met en route, pour partie, est réfléchi vers l'espace, pour la plus grande partie, pour une petite partie, est absorbé directement dans l'atmosphère. Donc, on peut dire qu'en simplifiant, on a la moitié du rayonnement solaire qui vient chauffer le sol, un tiers qui s'en va vers l'espace, et puis le petit reste qui fait 20%, un petit peu moins de 20%, qui est absorbé par l'atmosphère. Donc on a en fait un système où le soleil chauffe de manière presque directe le sol. C'est quelque chose d'extrêmement important quand on va essayer de comprendre la physique de ce qui se passe ensuite. Notre planète est un système où l'atmosphère est chauffée via le sol. L'énergie a beau venir du soleil, l'atmosphère est transparente, le rayonnement solaire se propage dans l'atmosphère, vient chauffer le sol, et c'est le sol qui vient à son tour chauffer l'atmosphère. Et c'est cette particularité qui est à l'origine de l'effet de serre. Parce que le rayonnement infrarouge qui est émis par la planète, au contraire, va être, lui, capté, absorbé par l'atmosphère, et en fait par certains gaz de l'atmosphère qui sont justement certains des gaz que j'ai cités, le CO2, enfin tous les gaz que j'ai cités plus quelques autres, le CO2, le méthane et aussi la vapeur d'eau. Et ces gaz-là empêchent le rayonnement de sortir directement vers l'espace et gardent une partie de la chaleur vers la surface, un petit peu comme une couverture. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors on peut faire plusieurs remarques sur ce diagramme. D'abord, les nuages apparaissent à toutes les étapes de ce raisonnement. Ils apparaissent pour ce qui est de la réflexion vers l'espace du rayonnement solaire, et ils apparaissent au niveau de l'effet de serre. Et les nuages, je n'aurai pas le temps de le décrire trop en détail, mais les nuages sont un élément capital dans la régulation de ce bilan radiatif, et ce sera aussi, on le verra, un des éléments les plus difficiles à modéliser quand on essaiera de comprendre le climat du futur. Alors, ce bilan radiatif de la planète, il est d'ores et déjà perturbé par la modification de la composition chimique de l'atmosphère dont je viens de parler. Vous avez ici une estimation, alors elle est en anglais, je m'en excuse, mais je vais la commenter, qui a été faite pour les besoins du groupe international qui rédige le rapport sur l'effet de serre, et où l'on a essayé de récapituler l'impact des différentes modifications déjà constatées de la composition chimique de l'atmosphère. Vous avez une première colonne ici qui correspond, et qui est la seule que je vais commenter en détail, correspond aux gaz à effet de serre. Alors ce qu'on appelle gaz à effet de serre sont les gaz dont j'ai déjà parlé. Ce sont les gaz qui ont une chimie lente, donc c'est des gaz généralement peu toxiques, qui sont peu réactifs, qui s'accumulent dans l'atmosphère, et c'est précisément leur accumulation qui pose problème. Alors la vapeur d'eau, dont j'ai dit qu'elle était très importante au niveau du bilan radiatif, ne fait pas partie des gaz qui sont figurés ici, parce qu'elle a un cycle très rapide de l'ordre de la quinzaine de jours, et que l'impact des rejets humains est tout à fait négligeable. Par contre, tous ces gaz sont des gaz qui sont fortement affectés par l'activité humaine, et le calcul des bilans énergétiques permet de quantifier leur impact, et vous voyez ici un impact qui est de l'ordre de 2,4 watts par mètre carré à l'heure actuelle, avec une certaine incertitude qui est figurée là. Alors c'est un chiffre sur lequel il faut insister un tout petit peu. 2,4 watts par mètre carré, il faut les rapporter là aussi à ce flux naturel, à cet échange naturel d'énergie dans le système climatique dont j'ai dit qu'il était de l'ordre de 300 watts, avec ce qui est perdu par réflexion directe du rayonnement solaire, de l'ordre de 200 watts. Donc les perturbations de la machine climatique dues à l'activité humaine, ce sont des perturbations de l'ordre du pourcent. Et ce sont des perturbations qui peuvent paraître très petites en valeur relative et qui sont effectivement très petites en valeur relative. Donc ce sont des perturbations qui paraissent très fines au premier abord. Alors maintenant, si on réfléchit un tout petit peu plus en essayant de se donner des ordres de grandeur, la température de la planète se mesure en degrés Kelvin, en température absolue, elle est de l'ordre de 300 Kelvin. Donc une perturbation de quelques pourcents d'une température qui est de l'ordre de 300 Kelvin, on peut faire le calcul très simplement, ça va donner une perturbation de la température de la planète de quelques degrés. Et quelques degrés, c'est beaucoup. Ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, ce sont 5 ou 6 degrés de température de la planète en termes global. Donc quelques degrés, ça représente une perturbation de l'énergétique de la planète qui est petite en valeur relative, mais qui est très importante en valeur absolue. Alors je vais y revenir juste après. Je vais intercaler ce transparent pour montrer pourquoi c'est important, qui vous montre ici, toujours à partir de relevés du passé, l'évolution de la température pour deux périodes. Une période de quelques milliers d'années que l'on a située, une période qui va de 10 000 ans à l'actuel, ici, donc de 10 000 ans. Et vous avez une variation de température qui est toute petite, de l'ordre de fraction de degré, sur ces 10 000 dernières années. C'est-à-dire que pendant 10 000 ans, on a eu un climat relativement stable si on compare à ce qu'on a pu avoir à des périodes anciennes. Vous avez ici ce qui se passe au moment des âges glaciaires, une évolution beaucoup plus chaotique avec des variations très brutales de la température. Donc l'importance de cette perturbation du climat par l'effet de serre, il tient à ce que l'on est dans une période de stabilité assez grande du système climatique et à laquelle on s'est habitué maintenant depuis plusieurs milliers d'années. Même s'il y a des petits épisodes comme le petit âge glaciaire au XVIIIe siècle, tous ces épisodes sont petits par rapport à ce qu'on a connu et sont petits aussi par rapport à ce qu'on va connaître, selon toute probabilité, dans le futur. Alors vous avez ici tout un ensemble de perturbations additionnelles qui sont dues à des éléments qui ont une chimie beaucoup plus rapide, celle de l'ozone ici, tout ce qu'on appelle aérosol, qui sont des particules solides, liquides, que l'on injecte dans l'atmosphère. Et toutes ces actions de l'homme, il s'agit ici de la perturbation liée à l'activité humaine, là encore mesurée en termes de forçage radiatif, c'est-à-dire en termes d'impact sur l'énergétique de la planète. Et ce que vous voyez, c'est que tout ensemble, ces éléments liés aux aérosols, liés à l'ozone, ne sont pas négligeables. Ils sont par contre très incertains. Alors c'est un élément important du débat, c'est que en fait, on sait que dans le futur, ce qui va être important, ce sont les gaz à effet de serre, parce que ce sont eux qui s'accumulent. Tous ces éléments qui ont une chimie relativement rapide ne s'accumulent pas. Pour lessiver les aérosols dans l'atmosphère, il suffirait d'arrêter toutes les industries pendant quelques semaines. En fait, on a un équilibre entre la production industrielle et les aérosols, on n'a pas d'accumulation des aérosols. Donc dans le futur, le réel danger, c'est la croissance des gaz à effet de serre. Par contre, tous ces produits qui sont injectés dans l'atmosphère compliquent très fortement le diagnostic de ce qui est en train de se passer. Et de manière générale, on ne sait pas si l'augmentation de température déjà constatée est la réponse à un forçage très fort, ou assez fort, des gaz à effet de serre, de l'ordre de 2 watts par mètre carré, ou un forçage beaucoup plus faible, parce que l'effet de réflexion du rayonnement solaire par les aérosols est venu masquer une partie du début de l'effet de serre. Et donc il y a là une incertitude quant à l'interprétation de ce qui est en train de se passer, qui ne vaut pas pour les prédictions futures, où je dis que cette partie liée aux aérosols deviendra beaucoup moins importante, mais qui complique beaucoup l'évaluation, à partir des tendances actuelles, de ce qui peut se produire dans le futur. Alors ça me fait une transition avec ce dont je voudrais parler maintenant, qui est donc passer justement de ce que l'on a pu observer, de ce que l'on a pu voir au cours du dernier siècle, vers une évaluation de ce qui peut se produire dans le futur. Et je voudrais insister à nouveau sur le fait que le problème de l'effet de serre, c'est un effet essentiellement, le problème de l'effet de serre, c'est un problème du futur. On parle beaucoup des manifestations actuelles d'un dérèglement climatique. En fait, il y a peut-être, j'y reviendrai, les premières manifestations d'un changement du climat, mais ce que l'on attend surtout, c'est une évolution du climat dans les décennies à venir, et je voudrais le montrer avec cette courbe. Vous avez ici trois courbes, vertes, rouges et noires, dont deux sont issues de modèles et une est issue d'observations. Celle qui est en rouge, c'est l'évolution réelle du carbone dans l'atmosphère. C'est donc la courbe qui monte et qui s'arrête un petit peu avant l'an 2000. Donc il s'agit d'observations de la composition chimique de l'atmosphère. Vous voyez que ça arrête environ à 350 ppm. Ça l'arrêtait un tout petit peu avant l'époque actuelle. Vous avez ici deux autres courbes qui correspondent à des simulations faites avec des modèles, et je reviendrai juste après sur ce que sont ces modèles. Un modèle où l'on n'a pas, injecté de carbone d'origine humaine, donc le niveau de CO2 reste stable, et puis un modèle où l'on essaie de représenter, donc c'est un modèle de cycle du carbone, qui représente un peu les boîtes que je vous ai montré tout à l'heure, liées au recyclage du carbone entre l'atmosphère, l'océan et la végétation. Et ce modèle simule très bien ce qui se passe tout au long du siècle actuel. Et puis on peut essayer de l'extrapoler au futur. Alors là, c'est sur la base de scénarios économiques. Et on voit qu'en fait, l'essentiel de l'augmentation se situe dans le futur. Et donc, c'est pour insister sur le fait que ce problème des gaz à effet de serre, c'est un problème du siècle prochain. Et donc pour se projeter dans le siècle prochain, on ne peut le faire que sur la base de modèles. Les modèles qu'on peut utiliser sont des modèles très variés, et je vais parler que d'une partie du problème, qui est la partie réellement climatique. En amont de cette partie climatique, on a besoin d'avoir une idée de ce que seront les évolutions, par exemple de la démographie ou de la croissance économique. Et il y a un ensemble de scénarios qui sont faits par les économistes pour essayer de se projeter dans le futur. Mais dans l'ensemble, toutes ces évolutions constituent une extrapolation vers le futur des tendances actuelles. Vous voyez ici, cette évolution du CO2, elle correspond en gros à 0,5% d'augmentation par an du CO2. L'impact des autres gaz double à peu près cet impact. Et un scénario qui est souvent retenu double à peu près cette augmentation. Et un scénario qui est souvent retenu, c'est un scénario où le CO2 augmente d'environ 1% par an. Et ce sont les scénarios sur lesquels j'essaierai de faire un certain nombre de raisonnements physiques pour montrer où sont les difficultés de la prévision. Dans ce cadre-là, ce qu'on appelle le doublement du CO2, qui est une période de référence qui a été utilisée par beaucoup de modélisateurs, se situe aux alentours des années 2050. Et ce doublement du CO2, on le verra, correspond à une perturbation de la température de la planète de quelques degrés. Alors avant d'en aller aux prévisions elles-mêmes par les modèles, il faut parler de ce que sont ces modèles. C'est absolument important parce qu'il y a souvent des compréhensions un petit peu erronées de ce que sont les modèles numériques qui servent à la prédiction du climat ou à l'estimation des scénarios climatiques futurs. En fait, ces modèles ne sont pas du tout des outils statistiques qui chercheraient à extrapoler ce qui s'est passé au cours du siècle passé vers le futur. Ce sont vraiment des tentatives de créer des sortes de planètes virtuelles qui répondent à des équations, donc qui sont le résultat de lois physiques. Et donc ce que l'on fait, c'est d'essayer de simuler les grands régimes de vent, de courant océanique, à partir des lois de la physique, et donc de créer un objet vivant qui ressemble beaucoup à notre planète, qui est un objet informatique cette fois-ci, et qui a sa vie propre, et que l'on va ensuite perturber par l'injonction de gaz à effet de serre. Alors, quelles sont les équations que l'on utilise pour faire ce travail? On a un premier jeu d'équations. Bon, je remontre une figure un tout petit peu différente pour montrer qu'il y a plus de processus que ce que j'avais montré, mais c'est essentiellement le même bilan d'énergie avec le rayonnement solaire qui va et qui vient, puis le rayonnement terrestre émis par la planète. Et puis, il y a tout un ensemble de processus qui sont un tout petit peu plus détaillés ici. Ça, c'est une première base d'équations qui servent pour les modèles. Et c'est un premier socle sur lequel sont construits les modèles, tout ce qui est énergétique de l'atmosphère, donc équation du transfert radiatif dans l'atmosphère. La deuxième grande base d'équations qui servent à construire les modèles, ce sont toutes les équations de la mécanique des fluides. Alors, mécanique des fluides, c'est la loi de Newton que tout le monde a appris au lycée, hein, la relation entre force et accélération via la masse. Pour un fluide, elle s'exprime de manière un tout petit peu plus compliquée. La grande difficulté, c'est qu'on n'a pas, sur une sphère en rotation, de solution exacte des mouvements de l'atmosphère, et que l'on est obligé d'avoir recours à une discrétisation, c'est-à-dire à une résolution numérique sur un maillage autour de la sphère. Et pour faire cette résolution, on a besoin d'avoir une idée de ce que sont les échelles typiques de la circulation atmosphérique. Alors, ou océanique. Alors, c'est ce que j'ai essayé de représenter, d'introduire à l'aide de ce diagramme. Ce diagramme représente une vue en coupe de la planète, qui serait d'ailleurs plus compréhensible dans ce sens, je m'en excuse, où vous avez une coupe au travers de l'atmosphère, à l'équateur, une coupe au travers de l'océan. Et je voudrais surtout vous rappeler ce que sont les dimensions caractéristiques de l'atmosphère et de l'océan. Vous avez en fait deux couches extrêmement minces. L'atmosphère météorologique, là où est concentrée la masse, c'est une couche d'une vingtaine de kilomètres à peu près. L'océan, c'est une couche encore plus fine, hein, de 4 à 5 kilomètres en moyenne. Les échelles horizontales sont au contraire des échelles très grandes, de l'ordre du millier de kilomètres. Donc vous avez une couche, un fluide qui va avoir un mouvement très particulier, contraint par cette géométrie, et vous allez avoir en gros deux classes de mouvements. Vous avez ici représenté la température de l'air, la température de l'eau. Vous voyez qu'en fait, l'air se stratifie. Alors ici, on a la température réelle qui est plus chaude en bas, on a une température potentielle qui est au contraire plus chaude en haut, mais on a une stratification de l'air qui correspond au fait que les couches les plus denses doivent se trouver près du sol, et les couches les moins denses doivent se trouver en altitude. Une première série de mouvements dans l'atmosphère va correspondre à tout ce qui redistribue verticalement l'énergie, et donc qui crée, maintient, cette stratification verticale. Et ces mouvements seront très souvent des mouvements qui sont, disons très grossièrement, de la même échelle que l'échelle horizontale, que l'épaisseur horizontale de la planète, de l'atmosphère, donc de l'ordre de quelques kilomètres. Des mouvements de quelques kilomètres qui vont faire des stratus, qui vont faire des cumulus, donc des petits mouvements. Et puis le long de cette stratification, on va avoir des mouvements extrêmement importants qui se développent à l'échelle du millier de kilomètres. Et ce sont ces mouvements-là que l'on peut modéliser. Et on retrouve un petit peu la même chose dans l'océan, sauf que là, la situation est inversée. Ce sont les eaux les plus légères qui sont en haut. L'océan est beaucoup plus stable et a une durée de vie beaucoup plus lente. Alors, pour essayer d'illustrer ça, je vais montrer deux images rapidement. Vous avez ici une image qui correspond à une vision radar de la planète. Alors, j'espère qu'on la voit bien. Donc, ce sont les... voilà, focaliser un petit peu. Les échos blancs correspondent à de l'air qui monte. Et vous voyez trois zones dont j'aurai besoin pour la suite. Une zone de montée de l'air près de l'équateur, qui est organisée comme une bande tout au long de l'équateur, mais qui est faite de tout petits points blancs. L'air monte très vite, très haut et presque verticalement. Puis vous avez une bande subtropicale où on n'a pratiquement pas de montée de l'air, c'est la grande ceinture des déserts. L'air monte près de l'équateur et redescend dans les zones subtropicales. Et puis vous avez à nos latitudes des mouvements qui sont quasi-horizontaux, qui correspondent à une montée de l'air très lente, le long de chemins très, très longs, qui correspondent à des mouvements pratiquement le long de ces stratifications que j'ai montrées, et qui sont donc des mouvements à l'échelle du millier de kilomètres. Alors ce que fait la modélisation, c'est qu'elle va être capable de représenter en zone tropicale la localisation de ces grandes zones d'ascendance, mais pas le détail de chacune des petites montées individuelles, et puis dans les moyennes latitudes, l'enroulement de ces systèmes de type dépressionnaire ou anticyclonique. Alors pour être plus précis, voilà le type de grille que l'on utilise pour réaliser des modèles climatiques. Donc vous résolvez les équations du système climatique à chaque point du maillage, et vous voyez qu'en fait on est bien capable de représenter l'écoulement principal avec ici un anticyclone, ici un jet important, ici une dépression, la convergence des alizés dans les régions équatoriales, la circulation de moussons d'hiver ici en Inde. Donc tous ces processus sont représentés, mais il y a toute une physique de plus petite échelle qui échappe à la modélisation et qui doit être représentée de manière simplifiée. Donc toute la difficulté de la modélisation, elle est là. On a à la fois une échelle, une grande échelle qui est pertinente, que l'on sait représenter, et puis on a une petite échelle que l'on va être obligé de représenter de manière simplifiée. Alors on a le même problème pour l'océan. Je ne vais pas insister, mais on est aussi obligé de représenter dans l'océan des structures assez fines. En fait, dans l'océan, le problème est même un petit peu plus difficile. Vous voyez ici, il s'agit d'une modélisation très très fine des courants océaniques, où vous voyez ce qu'on appelle ici les anneaux du Gulf Stream, donc ces perturbations très fortes de la circulation océanique dans la région du Gulf Stream. Vous voyez aussi le jet qui s'échappe de la Méditerranée, vous voyez qu'il oscille, et ces oscillations sont à l'échelle de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Ce sont les équivalents océaniques de nos dépressions et de nos anticyclones, sont à des résolutions toutes petites. Et il a fallu attendre que les ordinateurs soient suffisamment puissants pour réussir à simuler explicitement ces circulations océaniques. Alors, l'ensemble de ces équations, ça représente une masse de calcul très importante. Et en fait, ce n'est que dans les dernières années que l'on a eu la puissance de calcul pour essayer de réaliser des simulations qui couplent l'océan, l'atmosphère, et qui se projettent vers le futur. Pour donner un exemple de la manière dont le calcul contraint ces simulations, le modèle atmosphérique que j'ai montré prenait environ 30 heures de calcul pour réaliser un mois de climat simulé il y a 15 ou 20 ans, prend une minute sur les ordinateurs actuels. Donc il y a une quinzaine d'années, on ne pouvait pas faire de simulation du climat futur. On n'avait tout simplement pas la capacité de résoudre même les grandes échelles de la circulation atmosphérique. Depuis quelques années, on peut essayer de se projeter dans le futur par la modélisation, et c'est ce que l'on fait, donc, et que je vais présenter maintenant dans un ensemble de laboratoires. Alors, pour montrer très directement le type de résultats que l'on obtient, le type de choses que l'on peut faire, voilà la recadrer, une simulation, donc là encore, les chiffres ne sont pas nets, je vais réagrandir ensuite, de l'évolution du climat pendant 80 ans, qui vont de l'époque actuelle jusqu'à 2050 environ, de l'époque, disons, la fin des années 70 jusqu'à 2050 environ, niveau où le CO2 a doublé. Et on regarde ici la variation de température dans ces modèles couplés, océan-atmosphère, donc qui prennent en compte donc, l'essentiel de la physique que je viens de décrire, l'impact des gaz à effet de serre au niveau donc 2050. Alors, vous voyez ici les changements de température. En gros, le réchauffement est plus important sur les continents. Il est plus important aux hautes latitudes. Il est un petit peu plus faible sur les océans. Et sur les océans, on a un certain nombre de particularités sur lesquelles je vais revenir, qui sont que la température augmente peu dans certaines régions, qui sont des régions en fait, où l'eau se mélange sur des colonnes très importantes. L'eau de surface plonge. J'ai dit que l'eau océanique, normalement, est très légère en surface. À certaines latitudes, elle est, parce qu'elle est très chaude, à certaines latitudes, elle est aussi très salée. C'est le cas dans certaines régions polaires. Et là, elle a tendance à plonger. Et dans ces régions où l'eau plonge, elle emporte avec elle le réchauffement. Et le réchauffement ne peut pas se développer de manière importante. Vous avez ici un rôle de l'océan qui atténue le réchauffement climatique, qui éventuellement peut même le renforcer, l'atténuer dans certaines régions des hautes latitudes, des régions polaires. Alors, il faut faire quelques commentaires sur des simulations de ce type-là, parce que elles fournissent des résultats qui sont impressionnants au niveau des conséquences. On a 3 degrés de réchauffement. J'espère que je vais agrandir à nouveau. Oui, je le fais. On voit le réchauffement ici sur l'Afrique, sur l'Europe, qui atteint 3 ou 4 degrés. Donc, ce sont des perturbations importantes à l'échelle de peu de temps. Il faut d'abord relativiser la portée géographique, je vais y revenir, de ces simulations. Je l'ai dit, ce que l'on fait, ce n'est pas une prévision, c'est un exercice parallèle. On a une planète numérique qui ressemble à la planète réelle et que l'on perturbe comme on perturbe la planète réelle. Donc on a cette autre planète, et cette autre planète, ce n'est pas exactement la planète réelle quand même. Elle y ressemble, elle a son histoire, et son histoire est éventuellement différente. Vous avez entendu peut-être certains d'entre vous la conférence Joël Picot, on a des variabilités naturelles dans le système climatique, des épisodes de type El Niño. Ces épisodes surviennent de manière un petit peu aléatoire, et dans notre planète, on a aussi des épisodes El Niño, notre planète numérique, qui surviennent, eux aussi, à des dates un petit peu erratiques. Donc, on n'est pas capable d'avoir une perspective datée, historique, associée à ces prévisions. On est simplement capable de caractériser un type d'évolution qui est celui d'une planète numérique, virtuelle, qui ressemble, on l'espère, beaucoup à la planète réelle. Alors, pour essayer de caractériser la robustesse de ces résultats, le seul recours que l'on a, c'est le recours à d'autres modèles. Alors, pour vous montrer un peu le type de différence qu'on peut avoir entre différents modèles et d'où ça vient, Vous avez ici des cartes de précipitation, j'espère qu'on les voit, oui, qui sont issues de différentes versions de notre modèle, dans laquelle on a simplement représenté différemment toute cette physique de la petite échelle, des nuages convectifs. Et vous avez ici les données de précipitation observées, donc on retrouve la ceinture équatoriale de précipitation, les zones subtropicales où il pleut moins, et puis les régions de haute latitude où il pleut plus. Et vous voyez en fait que de manière générale, le modèle qui obéit seulement à ces équations, qui ne connaît pas l'atmosphère réelle, qui construit sa propre climatologie, construit une climatologie qui ressemble beaucoup à la climatologie réelle, mais selon les hypothèses détaillées que l'on peut faire pour résoudre ces petites échelles, on a malgré tout des différences. Si vous voyez le pincement des précipitations sur le Pacifique, vous voyez que ces modèles sont un peu différents, ressemblent beaucoup à la planète réelle, mais avec un certain nombre de différences. Et quand on essaie d'utiliser ces différents modèles, donc il y en a deux en France, plusieurs aux États-Unis, deux en Australie, un en Angleterre, donc partout sur la planète, les modélisateurs essaient de représenter le changement climatique. Quand on essaie de faire le même travail que je viens de montrer avec différents modèles, en fait, on a un faisceau de prédictions. Et ce faisceau de prédictions, c'est notre approche de l'incertitude associée au travail que l'on fait. C'est la seule approche que l'on puisse avoir jusqu'à présent. Alors, vous voyez qu'en gros, l'évolution future du climat, selon les modèles, elle est toujours dans le sens où ça se réchauffe. Il n'y a aucun modèle, malgré tous les efforts qui ont été faits par certains, qui ne répondent pas à une augmentation des gaz à effet de serre par un réchauffement net et franc. On a par contre une gamme qui va du simple au double, et encore un petit peu plus quand on se projette tout à fait à la fin de la période, donc au niveau du milieu du siècle prochain, qui traduit une certaine incertitude quant à la quantification de ces effets. Alors, c'est encore plus vrai quand on essaie de regarder certains champs qui sont des champs importants au niveau des conséquences du changement climatique, et en particulier les champs de précipitation. Alors vous avez ici une courbe, un écheveau de courbe, qui correspond à la prévision faite par un ensemble de modèles de la variation de précipitation, toujours donc au milieu du siècle prochain à peu près, c'est-à-dire pour un doublement du CO2. Vous voyez que, de manière générale, et c'est pour ça que j'ai parlé de ces grands régimes de pluie sur la planète, il pleut plus dans la région équatoriale. Il pleut un petit peu moins dans la région subtropicale. Puis il pleut à nouveau un petit peu plus à nos latitudes, dans les régions de moyenne latitude. Et ça, c'est quelque chose que l'on comprend très bien comme correspondant à la physique que je viens de décrire, à partir de la physique de grande échelle de l'écoulement atmosphérique que je viens de décrire. C'est-à-dire que, de manière générale, la région où l'air monte va transporter plus d'eau, il fait plus chaud, l'air est plus humide, et on va avoir une intensification du cycle hydrologique sur les régions humides. Cet air monte plus haut, s'assèche plus haut dans l'atmosphère, et dans les régions subtropicales, on a au contraire une atténuation relative, qui dépend des modèles, de la précipitation. Certains modèles ont des situations de sécheresse assez fortes dans les régions subtropicales. Et puis à nos latitudes, ces grands tourbillons quasi-horizontaux que j'ai montrés tout à l'heure transportent plus d'eau et amènent plus de précipitations sur nos régions. Donc on comprend la physique à grande échelle de ces processus. On voit que la physique de petite échelle, celle qui est non résolue, celle qui est représentée de manière simplifiée dans les modèles, contribue à cette incertitude qui va se traduire au niveau des prévisions régionales. On n'est pas complètement capable d'affiner les prévisions régionales des modèles. Alors, de manière générale, je ne peux pas donner tous les exemples que j'aurais souhaité, mais de manière générale, en fait, la manière dont a fonctionné la modélisation, ça a été d'intégrer des éléments de complexité de plus en plus importants. Et on n'est pas arrivé nécessairement à faire une prévision plus fiable. Je viens de montrer qu'effectivement, on n'est pas capable de quantifier, et on ne sera certainement jamais capable, parce que le système est compliqué, il est non linéaire, il fonctionne d'une manière un petit peu erratique. On aura toujours du mal à prédire de manière exacte ce qui peut se passer dans le futur. La manière dont on a fonctionné, c'est qu'en fait, on a pris en compte, au travers de la modélisation, un certain nombre d'arguments. Si vous voulez, les ordres de grandeur, un réchauffement de quelques degrés au milieu du siècle prochain, sont connus depuis pratiquement le début du siècle et Arrhenius. Le petit calcul d'ordre de grandeur que j'ai fait au début, vous pouvez le faire il y a longtemps. Ce que fait la modélisation, c'est représenter de manière de plus en plus fine toutes les complexités qui font qu'en fait, ça peut être différent. Et le résultat très, très, très fort, très frappant de ces dernières années de recherche, c'est que même quand on rajoute dans les modèles tout un ensemble de complexités, d'argumentations nouvelles, on ne remet pas en cause ces prédictions initiales. On est toujours en train de prédire, de manière plus ou moins importante, mais de manière constante, un réchauffement climatique futur. Alors cette complexité, elle s'accroît maintenant de tout ce qui est interaction entre le système physique, qui est essentiellement celui que j'ai décrit, et puis tous les cycles biogéochimiques. Alors j'ai représenté le type de modèle ici qu'on cherche à... Et je vais... Le type de modélisation qu'on peut chercher à faire maintenant, c'est de rassembler dans des représentations conjointes tout ce qui a trait au monde physique, donc les équations d'énergie, de mouvement, tout ce qui est en bleu, tout ce qui a trait au cycle du carbone dont j'ai parlé au début, tout ce qui a trait à la chimie, des aérosols, des gaz à effet de serre, dans des systèmes experts où on puisse justement tester l'impact de ces complexités. Et l'impact de ces complexités, il est de rajouter une certaine incertitude qui ne remet jamais en cause, encore une fois, l'évolution que je viens de décrire, mais qui remet en cause sa quantification. Alors, pour vous donner un exemple, vous avez ici un diagramme un tout petit peu compliqué, que je vais cette fois agrandir, et toujours dans le mauvais sens. Voilà. Je vais me limiter aux deux diagrammes du milieu. Vous avez ici des prévisions qui sont basées sur les scénarios que j'ai présentés, des puits de carbone dans la biosphère, donc dans la végétation continentale et dans l'océan. Donc quand le carbone augmente, je l'ai dit tout à l'heure, quand on injecte du carbone dans l'atmosphère, la moitié reste dans l'atmosphère et une moitié va se recycler dans les compartiments océaniques ou de la biosphère continentale. Dans le futur, en fait, il n'est pas évident, et je l'avais dit tout à l'heure, que cette fraction du carbone qui reste dans l'atmosphère reste constante. Et vous avez ici deux courbes, une courbe rouge et une courbe verte, qui montrent ce que peut être le puits biosphérique, dans les deux cas, continental et océanique, si on ne prend pas en compte le réchauffement climatique ou si on prend en compte la perturbation du cycle du carbone par le réchauffement. Alors pour la partie continentale, le réchauffement crée un stress sur la végétation, un stress souvent lié à l'absence d'eau, et ce stress sur la végétation va diminuer la capacité de la végétation à reprendre du carbone. Dans la partie océanique, le réchauffement va stabiliser encore plus l'océan. On a dit que l'océan, cet effet de couche d'eau superficielle très chaude, qui se mélange peu avec l'eau plus profonde du fond. Et quand on accroît encore cette tendance à avoir des eaux chaudes en superficie, on diminue la capacité de l'océan à pomper du carbone. Et donc, la conclusion, c'est que quand on commence à coupler ces modèles biogéochimiques avec des modèles climatiques, eh bien on accroît l'incertitude, mais on l'accroît dans le sens en fait, où le réchauffement climatique est un peu plus rapide. Donc c'est pour montrer que ce travail de recherche sur les complexités du système, il est toujours en évolution et que l'on prend en compte maintenant des dimensions nouvelles du système. Alors, le dernier point dont je voulais parler, c'était le problème du lien avec ce qui est en train de se passer et de la régionalisation, ce qu'on appelle la régionalisation des effets. Donc les gens qui entendent ce type de discours sont intéressés de savoir que la planète va se réchauffer, qu'on peut avoir des impacts qu'on a du mal à quantifier. Et la question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on peut malgré tout essayer de prévoir un peu mieux ce qui peut se produire à l'échelle régionale. Et donc je conclurai en quelques mots là-dessus, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais en fait, on a une imbrication d'échelle, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le système climatique, qui va de la grande échelle. Cette grande échelle, elle est contrainte par l'énergétique globale. Il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle, la Terre tourne. On a des mouvements à grande échelle qui sont contraints de manière très forte et qui sont modifiés par l'effet de serre. Cette modification de la grande échelle atmosphérique elle a des conséquences qu'on peut traduire de manière régionale par un certain nombre d'indices. Et alors là, on peut s'appuyer sur ce qui s'est produit au cours de l'époque récente pour essayer de documenter ces effets-là. Vous avez au cours de l'époque récente une augmentation tout au long du siècle de la température, dont on pense vraiment... Alors, qu'elle est liée à l'augmentation des gaz à effet de serre, au moins pour les dernières décennies. Donc vous allez de 1860 à 2000, vous avez l'augmentation de la température depuis le début du siècle. Je n'ai pas trop parlé de ce qui s'est passé pendant le siècle parce que j'ai voulu me focaliser sur les prévisions du futur, mais vous voyez qu'on a une assez bonne cohérence en fait entre ce qui est en train de se produire et ce que les modèles eux-mêmes prédisent pour les dernières décennies. Donc un réchauffement. Donc ce réchauffement, il est très probablement dû à l'activité humaine, on n'est pas encore complètement sûr, mais quoi qu'il en soit, il existe, et on peut regarder comment il se traduit au niveau régional. Au niveau régional, il se traduit en fait par la modification d'un indice qu'on appelle l'indice nord-atlantique, qui mesure la différence entre l'anticyclone des Açores et la dépression d'Islande. Donc vous avez cet indice, et vous avez l'évolution de cet indice ici, sur la région européenne, qui affecte le climat sur la région européenne. Et la manière dont on peut percevoir, et c'est là que je veux en venir, les changements climatiques à l'échelle d'un pays comme la France, par exemple, c'est sous forme d'une imbrication de statistiques. On a une première statistique qui est l'évolution des gaz à effet de serre, une première gamme de futurs possibles qui correspond aux différents scénarios d'évolution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le pas suivant, c'est de calculer la température globale de la planète, la manière dont elle peut évoluer. Et on a là aussi un certain nombre de scénarios possibles, qui sont ceux que j'ai cherché à décrire. Le pas suivant, c'est d'essayer de régionaliser ça en calculant la manière dont certains grands indices météorologiques, donc qui traduisent cette grande échelle, donc ici l'anticyclone des Açores, c'est quelque chose qui se manifeste à grande échelle, peut évoluer en réponse à ces changements climatiques. Et on peut s'appuyer sur ce qui se produit en ce moment pour documenter ces relations. Puis la dernière étape, c'est de lier éventuellement, et certains l'ont fait, je répondrai à des questions éventuellement, ces effets à grande échelle, à des phénomènes encore plus locaux, qui peuvent se produire dans nos régions. Et bon, c'est là que je veux en venir, c'est là que je vais conclure. Je pense qu'il faut percevoir le système climatique et la prédiction qu'on peut essayer d'en faire comme un exercice qui est un exercice de recherche d'une information de futur possible dans une certaine gamme qui sera toujours ouverte. On ne peut certainement pas prédire complètement un système aussi compliqué. On a donc nécessité d'essayer de faire une prédiction statistique de futurs possibles, de scénarios possibles. Alors ce qui est remarquable, en l'occurrence, c'est que tous ces scénarios possibles vont dans le sens d'une modification importante du changement climatique, du climat de la planète. Et je pense que je conclurai en disant que ce qui est important surtout, c'est la vitesse avec laquelle ces évolutions vont se faire. Donc on est face à des évolutions qu'on ne sait pas prédire dans le détail, qu'on commence à bien maîtriser sur le plan quantitatif, sur le plan conceptuel, qui s'appuie sur une physique qu'on commence à bien comprendre. Et leur caractéristique la plus importante, ce sera cette vitesse d'évolution très grande par rapport à tout ce qu'on a pu connaître au cours des siècles précédents. Et voilà, donc je vais m'arrêter ici. Donc ce que je voulais bien faire sentir, c'est cette ambivalence qui fait que le rôle des climatologues est toujours délicat, entre la nécessité pour nous de quand même attirer fortement l'attention des gens sur ce problème de l'effet de serre et en même temps l'incapacité dans laquelle on est de faire des prévisions absolument détaillées à l'échelle régionale qui est souvent prise comme un facteur d'ignorance. Et ce que je pense, c'est que ça n'est pas un facteur d'ignorance, c'est un facteur de risque et ça doit être pris comme tel. Je m'arrêterai ici.
Existe-t-il des PPR, des plans de prévention des risques en matière de climatologie? Et est-ce que vos simulations, vos modélisations, préfigurant la réalité virtuelle, sont ouvertes aux citoyens, aux associations, aux décideurs politiques, aux autres chercheurs d'autres disciplines, s'il vous plaît.
Alors, pour ce qui est des PPR, bon, je sais qu'il y a maintenant en France une mission interministérielle sur l'effet de serre qui a fait un plan d'action sur le climat et sur l'effet de serre. Donc, je ne suis pas tout à fait spécialiste de ce domaine, mais il y a effectivement un souci des pouvoirs publics qui est réel et qui est consécutif à Kyoto. Au niveau de ce qui est ouverture de ces simulations et transparence de la recherche, elle est absolument complète, dans la mesure où toutes ces recherches se sont faites d'abord de manière interdisciplinaire. Dans la construction de ces modèles, on a des physiciens, on a des chimistes, on a des biologistes, on a des communautés scientifiques qui sont larges et éclatées, qui ont besoin de parler entre elles. On a aussi besoin de nos collègues étrangers. On ne peut pas faire une simulation toute seule et ne la référer à rien. Et donc, en fait, c'est une discipline qui s'est créée dans une ouverture complète. Donc, nos résultats sont sur le web, directement accessibles et sont consultables par tout le monde.
Il y a une question sur le côté, là-bas. Allez-y, monsieur. Voilà.
On associe souvent l'augmentation du niveau d'eau des océans et la fonte des glaciers due à l'augmentation de température. Or, vous avez montré que, en fait, l'augmentation était plus importante au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Des pôles où il y a tous les glaciers, ce qui tend à, en fait, à prouver que le niveau, la montée des eaux et l'augmentation de température sont deux effets qui ne sont pas liés.
Non, en fait, c'est pas tout à fait. Alors, j'ai montré deux diagrammes, un correspondant à la température, qui montre que la température augmente de manière plus forte dans les régions polaires, et un diagramme correspondant aux précipitations, qui montre que les précipitations, elles, sont plus sensibles en région équatoriale. Donc, il y a une dissymétrie entre température et précipitation au niveau de la variation en latitude. Maintenant, ce qui est important pour le relèvement du niveau des mers, ce n'est pas nécessairement la fonte du Groenland ou de l'Antarctique, heureusement. C'est en fait deux choses. Première chose, c'est la dilatation des océans. Donc les océans se réchauffent, ils se dilatent. Et une deuxième chose, dont je voulais parler, mais j'ai été pris par le temps à la fin, qui est la fonte des glaciers. Alors, on l'a dit, on a un réchauffement qui est ou n'est pas d'origine anthropique, mais qui est réel. Vous avez ici l'évolution des glaciers depuis 100 ou 200 ans. Donc des glaciers, cette fois-ci, de montagne, de moyenne latitude, les glaciers andins, les glaciers des Alpes. Et tous ces glaciers ont tendance à décroître fortement. Donc et c'est cette contribution des glaciers de montagne qui alimente aussi l'augmentation du niveau des mers. Les calottes antarctiques et groenlandaises, au contraire, pourraient se voir dans un premier temps, elles sont très en dessous de la température 0 degré Celsius. Un petit réchauffement ne les affectera pas tout de suite. Dans un premier temps, on peut même imaginer qu'elles regagnent de la neige. Mais si on prend en compte le bilan total de ces effets, ce qu'on attend, c'est quelques dizaines de centimètres d'augmentation du niveau des mers pour les mêmes simulations que j'ai montrées au milieu du siècle prochain.
Monsieur, là, une question, allez-y. Allez-y.
La question que je me pose est de savoir dans quelle mesure l'utilisation de sources d'énergie non chimiques, par exemple le nucléaire, peut nous faciliter le contrôle de l'évolution à terme de la température de la planète.
Oui, le nucléaire ne contribue pas du tout à l'effet de serre, donc c'est effectivement une alternative de ce point de vue-là. Alors, comme chacun sait, le nucléaire pose d'autres problèmes. Le scientifique qui travaille sur les problèmes d'effet de serre ne peut pas, en tant que tel, pondérer les avantages et les inconvénients des deux méthodes. C'est des choix de société qui sont entre des avantages et des inconvénients de nature extrêmement différente. Mais c'est certain que le nucléaire ne fait pas d'effet de serre et que si on passait au tout nucléaire, on aurait d'autres problèmes de sécurité, par exemple, mais on n'aurait pas de problème d'effet de serre. Donc, ensuite, c'est un débat qui est, à mon avis, un débat citoyen qui ne peut pas être tranché par des experts, si vous voulez. Donc, j'ai mon opinion, mais je ne le dirai pas ici.
Une question là.
Hier, j'ai appris qu'on ne pouvait pas contrôler des phénomènes comme El Niño. Bon, mais je voulais vous demander si avec les prévisions, les modélisations, on ne pouvait pas prévoir, voire peut-être un jour contrôler les phénomènes climatiques, style la mousson, avec tous les problèmes que ça apporte, ça serait peut-être nécessaire de contrôler la mousson.
Alors, prévoir, on peut prévoir, on peut espérer prévoir un certain nombre de choses quelques mois à l'avance. Une fois qu'El Niño a commencé à se déclencher, on peut espérer le prévoir. La mousson, on peut certainement améliorer sa prévision quelques semaines à l'avance, sur une base statistique, toujours. Contrôler, c'est quelque chose qui est là complètement impossible. Je pense que plus on commence à pénétrer dans la compréhension de ce système climatique, plus on réalise sa complexité considérable. Et cette complexité, elle est difficile au niveau du diagnostic, et elle serait encore plus impossible au niveau de l'action. Donc je pense que l'idée de contrôler quoi que ce soit dans ce système-là est tout à fait irréaliste.
Ma question rejoint un peu la question précédente, là, à propos de l'énergie qui touchait à l'énergie nucléaire. Le monde scientifique est bien d'accord sur le fait que la consommation des énergies fossiles est tout à fait néfaste quant au climat futur. Et actuellement, en fait, de manière plus précise, l'influence de ce monde scientifique sur les politiques du monde, puisqu'en fait, il n'y a pas de solution de rechange que celle d'une énergie actuellement connue, tout au moins l'énergie nucléaire. Et on voit par exemple un coup d'arrêt en Allemagne qui me paraît tout à fait néfaste en ce qui concerne justement ce problème d'effet de serre. Vous voyez la question. Oui. Et donc, une question de politique générale, quelle est l'influence du monde scientifique, donc, des hommes comme vous, sur la politique future?
Donc, au niveau individuel, elle n'existe pas. Au niveau collectif, c'est vrai que la communauté scientifique s'est organisée pour faire des rapports qui ont été la base des sommets de Rio, puis de Kyoto. Donc c'est la communauté scientifique qui, par les rapports qu'elle a fait de manière collective au niveau international, a suscité ces conférences et donc a suscité quand même une certaine action politique. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, le point quand même que je soulignerais, c'est qu'il s'agit de problèmes qui sont réellement des problèmes globaux. C'est-à-dire que la production d'énergie dans les pays tels que la France ou les États-Unis progresse peu maintenant. Ce qui est vraiment la menace pour le futur, c'est la production d'énergie en Inde, en Chine, au Brésil. Ces trois pays à eux seuls pèseront autant que le monde dit industrialisé d'ici quelques années. Et c'est leur croissance de leur économie qui est le problème. Donc c'est par rapport à ces pays-là et pas par rapport à l'Allemagne qu'il faut poser le problème du nucléaire.
Madame, au milieu, au centre, allez-y.
S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, en dehors de l'effet de serre, ce que vous pensez concernant l'évaporation de plus en plus importante au niveau des pays avancés due à l'irrigation intensive, extensive, les piscines, etc. Est-ce que vous pensez que cette évaporation peut transformer en partie les précipitations?
Alors, que ça, c'est au niveau des piscines, je ne sais pas, au niveau de tout ce qui est gestion du paysage, c'est certain que la déforestation, par exemple, dont je n'ai pas parlé, c'est quelque chose que j'ai regretté un petit peu, enfin, c'était un choix. L'action de l'homme sur le climat ne se fait pas uniquement via l'injection de gaz à effet de serre. Tout ce qui est modification du paysage, qu'il s'agisse donc de gestion agricole, de déforestation, de modification des paysages qui conduit à plus d'érosion, a un impact climatique certain, a contribué très certainement, par exemple, aux sécheresses sur le Sahel. Cet impact, il est plus local. Donc, par rapport à ce que j'ai décrit ici, il interfère peu, mais il est réel. Et donc, au niveau d'une région donnée, d'un continent donné, c'est très important de comprendre le système climatique comme un tout, effectivement, où tout ce qui est gestion de l'eau intervient de manière extrêmement étroite. Alors, simplement, le problème de l'eau, c'est un problème extrêmement vaste et qui est difficile à décrire en deux minutes. L'eau participe à la régulation du système climatique de manière multiple et de manière extrêmement importante.
En haut, là-haut.
Bonjour. Pour certains scientifiques, l'augmentation actuelle de la température de la Terre serait liée en fait à une augmentation de l'activité solaire. Vous n'en avez pas du tout parlé. Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, que le soleil joue sur l'équilibre radiatif de la planète, c'est certain. J'en ai pas parlé parce que justement j'ai cherché à ne pas parler du problème du changement climatique futur comme étant une extrapolation de ce qui est en train de se produire maintenant. Ce qui est en train de se produire maintenant, c'est les tout débuts de l'effet où on a des combinaisons multiples d'influences, volcanisme, rayonnement solaire, aérosol, début de la croissance des gaz à effet de serre. Ce qui est inquiétant, c'est quand les gaz à effet de serre vont dominer tous ces effets-là, et c'est ce qu'on peut attendre dans les décennies qui viennent. Alors maintenant, malgré tout, le réchauffement que l'on a depuis 2 ou 3 décennies est très difficile à expliquer par le rayonnement solaire. Les gens qui mettent en avant cette hypothèse sont obligés de faire pas des contorsions, mais d'imaginer des mécanismes qui, pour le moment, ne sont pas connus pour essayer de trouver une manière par laquelle une perturbation relativement faible du rayonnement solaire pourrait conduire à des changements de température aussi grands. Et actuellement, ces mécanismes ne sont pas évidents, ne sont pas connus. L'explication de ce qui est en train de se passer par l'augmentation des gaz à effet de serre est beaucoup plus directe. C'est pour ça que je dis que, à mon point de vue, l'augmentation récente des températures est certainement la trace des gaz à effet de serre. Je dirais qu'on n'a pas la preuve. Il y a un principe d'économie quand on fait de la science qui est toujours d'aller chercher la raison la plus simple. Et la raison la plus simple pour l'augmentation de température que l'on vit actuellement, c'est de très très loin les gaz à effet de serre.
Une question sur le côté droit. Allez-y, madame.
Bonjour. Je voudrais savoir si vos études prédictives en matière de climatologie ont permis à des pays d'utiliser d'autres matières énergétiques que les énergies fossiles, c'est-à-dire énergie éolienne, énergie solaire ou piles photovoltaïques. Enfin, qui permettrait justement de diminuer ces phénomènes à effet de serre.
Nos études directement, certainement pas. Ce qui est certain, c'est que la sensibilisation à ces thèmes-là va dans le sens que vous dites. Maintenant, les recherches climatiques sont récentes. Comme je l'ai dit, toutes ces simulations sont des simulations que l'on sait faire depuis quelques années, guère plus. Donc le temps que cela pénètre les consciences à un niveau plus large, ça prendra un petit peu de temps, je pense.
Monsieur là, en bas.
Est-ce que les tempêtes de fin de l'année dernière peuvent être considérées comme étant une conséquence du réchauffement de la planète ? Et est-ce que nos pays tempérés peuvent être soumis à des perturbations plus fréquentes de même nature que celles que nous avons vues à la fin de l'année dernière ?
Oui, le monsieur est là. Ah oui, voilà. Donc c'est une question à laquelle il est pour le moment pratiquement impossible de répondre de manière sûre. Le système climatique fluctue de manière naturelle. Et on peut voir ça comme un système de dés. On a un dé, on tire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. La tempête de décembre, ça correspond à tirer le 6. Et le 6, dans les lois de probabilité des événements climatiques extrêmes de ce type, revient peut-être tous les 100 ans, tous les 200 ans. Savoir si la fréquence de retour d'événements aussi catastrophique va être modifiée, est déjà modifiée, c'est encore difficile à dire, par le réchauffement climatique, c'est extrêmement délicat et ça ne peut en tout cas pas se dire sur un seul événement. Donc on ne peut pas faire ce diagnostic-là au jour d'aujourd'hui. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ce que prédisent les modèles pour le futur va plutôt dans ce sens-là. Ça reste malgré tout très ténu, et je préférerais dire, face à des événements comme cela, que c'est une manifestation du fait que le climat n'est pas aussi stable que l'on croit, et qu'on a un peu trop considéré que le climat de la fin des années 60, quand il y a eu la grande reprise économique d'après-guerre, était une référence absolue pour tout ce qui était infrastructure dans beaucoup de pays, et ça n'est pas tout à fait le cas. Il faut un recul plus grand. Il y a une variabilité naturelle du climat et éventuellement, donc, il y aura une variabilité due à l'homme qui s'y superposera.
Une dernière question en haut. Monsieur, levez-vous.
Bonjour. Je voulais savoir, les gaz à effet de serre, quels sont-ils exactement ? Comment vous les mesurez ? Et finalement, pourquoi ils existent ? Comment on pourrait réellement diminuer cet effet ? Et est-ce qu'ils n'ont pas... Est-ce que c'est... Vraiment, ils sont apparus au cours de ce siècle ? Est-ce qu'ils n'ont pas été mesurés déjà par ailleurs ? Est-ce que c'est vraiment dû à l'homme ?
Oui, alors je pense merci d'avoir répondu partiellement à cette question. Je vais peut-être préciser. Les gaz à effet de serre, si on prend, ça dépend de la définition qu'on prend. Si on la prend comme une définition strictement radiative, le premier, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, je l'ai dit, est peu affectée par les activités humaines. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé, même si c'est un gaz très important au niveau climatique général. Le deuxième, par ordre d'importance, c'est le CO2. Et ce que j'ai cherché à montrer, c'est qu'effectivement, son augmentation actuelle se modélise, se comprend, se mesure de manière très précisément comme la réponse à l'activité humaine. Alors comment on le mesure? Il y a eu toute une période de mesures dans les bulles d'air emmagasinées dans la neige ou dans la glace, surtout dans la glace, il faut que les pores de la neige se referment, et ensuite on extrait cet air et on mesure la quantité de CO2 contenue dans la neige. Ces mesures sont en continuité parfaite avec les mesures qui ont été faites de manière directe dans l'atmosphère, à partir des années 50 d'abord à Mauna Loa, à Hawaï, et puis maintenant avec un réseau planétaire de mesure des gaz à effet de serre. Alors, c'est souvent des techniques spectroscopiques, absorption d'un rayonnement qui passe dans le gaz. Et donc il y a une cohérence complète de l'ensemble de ces mesures, et une cohérence complète, comme je l'ai montré, comme j'ai essayé de le montrer, avec l'évolution des consommations de charbon et de pétrole. Donc on est très, très sûr de ce qui s'est passé. Même chose pour le méthane. Les autres gaz, c'est encore plus simple. C'est des gaz qui étaient très peu présents en l'état naturel, dans l'atmosphère, les oxydes d'azote, les CFC. Ils apparaissent avec l'homme et avec l'activité industrielle. Donc il y a très peu de doutes à ce propos. Donc j'ai cité les principaux. Là, j'ai cité les principaux gaz à effet de serre. Le dernier, c'est l'ozone, qui lui est plus compliqué.
Hervé Le Treut, je vous remercie.